voilà, je tombe d'accord avec Paris. J'ai même déjà vidé ma maison, préparé mon déménagement et tout.
Ah ouais?
Ouais. Je vois un numéro masqué qui m'appelle. Ouais, bonjour, c'est Henri Pinault. Je vais te dire une chose, écoute bien. J'ai pas besoin d'argent. Si tu veux plus jouer, c'est ton problème. En tout cas, tu partiras pas de Rennes. Boum, il raccroche. J'ai dit, ah là là, Johan, je l'ai connu au centre de formation, à Rennes. Quand il vient à Lyon et qu'on l'annonce comme ça en grande pompe, je lui dis, c'est pas bon. T'as la chance de tomber contre Nicosie. Tu vas là-bas et tu te fais éliminer. Mais c'est dramatique.
Allez, c'est parti, Jimmy. Comment tu vas?
Ça va, Colin, et toi?
Ça va au top. On va pas mentir aux gens. On a mis du temps à la mettre en place, cette interview.
Ouais, on a mis du temps à se capter, mais ça y est, on arrive toujours.
Comment ça va? T'as l'air en forme, tout beau, tout roule?
Ouais, ça va. Hein. Tout roule. Voilà, je commence ma seconde vie. Donc, voilà, mais ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai plein de projets. Donc, ça fait plaisir. C'est bien.
Il y a eu déjà félicitations pour la seconde vie, c'est top, la nouvelle casquette de consultant chez Amazon, enfin Prime Video. Comment tu as été convaincu? Parce que je t'avoue, moi je t'ai quitté fin de saison dernière, tu avais exprimé ta volonté de continuer, pourquoi pas même en Ligue 2 avec le club, et finalement on te voit en consultant. Comment ça s'est fait dans ta tête?
Ben en fait, voilà, début août, bon, mon contrat s'est terminé le 30 juin à Bordeaux. Et pendant tout le mois de juillet, voilà, j'ai commencé à avoir des petites approches, mais rien de concret. Et forcément, eh ben, tu te dis, quand ça fait un mois que tu n'as pas eu de proposition concrète, eh ben, il faut commencer à préparer la suite. Et voilà, dans des discussions, notamment dans une discussion avec Benoît Chéroux, que je connais très bien, je lui ai évoqué cette idée. Je lui ai dit, tiens, est-ce que tu me verrais bien consultant? Il m'a dit, bah, franchement, tu as le profil. Après, c'est à toi de voir est-ce que ça te dit. Je peux en parler. Et puis finalement, il en a parlé et tout de suite, ils sont revenus vers moi et ça s'est fait comme ça. Ensuite, moi, je leur avais dit, écoutez, pour l'instant, je veux continuer à être joueur. Donc, on se donne jusqu'au début, fin août, voire début septembre, s'il peut y avoir une proposition. Et s'il n'y a pas de proposition, et ben voilà, à ce moment-là, on continue là-dessus. Et puis, ben, tu vois, ils m'ont mis directement sur le premier match de la Ligue 1 en ouverture de championnat. Donc, c'est quand même une marque de confiance importante. À Lyon, en plus, donc un beau petit clin d'œil. Et puis, ben, il s'avère que j'ai eu des retours plutôt positifs. Moi, je me suis senti de plus en plus à l'aise dans ce rôle. Et puis, le fait qu'aucune proposition vraiment intéressante soit arrivée, ben, à un moment donné, j'ai dit, ben, voilà, je passe la barrière et puis j'annonce ma retraite finalement.
Bah, du coup, le concours de circonstances, ça s'est fait un peu par la petite porte, entre guillemets, tu vois. Du fait que enfin, quand tu finis la saison, tu ne sais pas trop où t'en es vraiment avec les Girondins. Donc, il n'y a pas de jubilé, il n'y a pas de gros au revoir. Pour une figure importante comme ça de Ligue 1 qui dépasse la barre des 100 buts, c'est quand même, ça fait un peu bizarre de devoir partir comme ça d'un coup, tu vois.
Je suis d'accord avec toi. Et même, tu vois, moi, dans mon esprit, je m'étais dit, ça serait bien que tu retrouves un dernier challenge parce que ça fait 2 ans que tu es à Bordeaux, tu joues pas beaucoup, ça se termine un peu en eau de boudin avec une descente. C'est dommage de partir sur cette image. Maintenant, la vérité, c'est que j'ai rien eu de concret qui m'intéressait. Et à partir de là, moi, je suis pas un forceur. Ça veut dire que je vais pas aller. Voilà, si on veut de toi, tu es libre et qu'il y a juste à rentrer en contact et qu'il n'y a rien, ben, finalement, c'est que peut-être personne n'était intéressé par mon profil ou peut-être on pensait que j'étais inaccessible ou enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'avère que j'ai rien eu qui a pu me dire, ben, vas-y, déplace la famille, on va dans un dernier challenge. Et après, ben, faut savoir prendre des décisions.
Ouais, bien sûr,
Il y avait aussi
bien sûr.
cette proposition de Prime. Moi, j'avais commencé aussi en parallèle à ben, passer mes diplômes, à commencer le coaching. Donc, voilà, quand tu poses tout sur la table, et ben, tu te dis, c'est le moment. Et puis, tu le fais. Mais c'est vrai que la fin, elle était un petit peu amère. Et c'est dommage, mais bon, après, voilà, moi, je vis pas sur le passé. Et puis,
T'as
voilà,
raison.
j'enchaîne vite avec autre chose.
Dis-moi justement, comment ça se passe les premiers pas pour toi dans le monde professionnel? Est-ce qu'il y a eu. Alors, il y a le côté, évidemment, on est un peu enlevé de la famille, on a un rythme un peu différent qu'on connaît un peu chez la majorité des footballeurs, mais le côté chose que toi, tu as eu à travailler pour vraiment franchir un palier et aller vers les pros, ça a été quoi? Qu'est-ce que tu as vraiment dû changer dans ton jeu ou dans ta personnalité pour évoluer?
La chose que j'ai dû assimiler, c'est qu'en fait, moi, depuis l'époque de Clairefontaine, parce que je suis parti à 13 ans à Clairefontaine, où où j'avais déjà quitté ma famille, comme tu dis, etc. Et en fait, j'ai toujours été avant-centre. J'ai fait toute ma formation avant-centre. Et tu arrives en pro, il y a Alexander Frey devant. Forcément, tu ne vas pas arriver et lui prendre sa place. Donc,
Non.
tu as le coach qui vient te voir en réserve. Moi, à l'époque, c'était Vahid Haïlaudic, qui vient me voir à l'époque où on joue le maintien. Et en fait, il vient me voir sur un 16e de finale de Coupe Gambardella, où je suis avec les 18 ans de Rennes, où on joue à Guingamp. Donc, il vient. Et puis, je fais un super match. Et à partir de là, il m'appelle dans le groupe pro pour m'entraîner. Mais par contre, t'as Fry. Donc, moi, il me dit, tu seras sur les côtés, tu seras un ailier. Mais moi, ce n'est pas ma qualité d'aller, de dribbler, de centrer. Ce n'était pas une qualité première. Voilà, ça allait. Mais voilà, quand tu as joué toujours avant-centre et on dit, tu vas sur les côtés, tu es jeune, tu vas, et puis tu travailles, tu écoutes les conseils, et puis tu essayes de percer tout doucement. Et puis, en fin de saison, il me donne mon premier match en pro à 17 ans au Parc des Princes, côté droit. Donc, tu croques dedans. Et puis finalement, il s'avère que dans ma carrière, j'ai joué autant sur le côté que devant. Donc, voilà, c'est la seule chose durant ma formation où j'ai dû dire, tu es en jeune, tu marques but sur but en étant avant-centre, mais là, on te demande d'être côté, de continuer à marquer des buts, mais aussi de faire marquer l'avant-centre. Et puis de défendre aussi. Donc, c'est toute une gymnastique à faire, mais bon, tu as tellement envie de réussir que tu prends ce qu'on te donne, et finalement, ça m'a servi dans ma carrière.
C'est bien parce que t'es le meilleur associé en gros. Tu vois, tu dis que tu as dû apprendre à donner des bons ballons à l'avant-centre. Toi, là, tu donnes un bon ballon. Tu vois, j'allais en parler de cette déclaration parce qu'elle est pas si fréquente dans le foot. C'est pas si fréquent qu'une star parce que. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas connu, Alexander Frey, c'est à la lutte tous les ans avec Pedro Miguel Paoletta notamment pour être meilleur buteur. Et c'est un buteur incroyable, un joueur suisse,
En
mais
jouant à Rennes,
incroyable.
en jouant à Rennes, ça
En
veut dire
jouant à Rennes,
que à
c'est
l'époque,
dire.
c'était pas le Rennes de maintenant, c'était un Rennes,
C'est dire.
voilà, milieu de tableau, des fois qui faisait des coups, et c'était un buteur incroyable. Ah ouais,
Ouais.
incroyable.
Avec tout le respect que j'ai pour Rennes et le Rennes de l'époque. Le voir dans un club comme l'Olympique Lyonnais, par exemple, j'aurais aimé voir si ça aurait pris ou pas. Mais bref, c'est une des curiosités qu'on aura toute
Ouais.
notre vie, ça fera pas. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est avoir un joueur comme ça qui, quand il s'en va, fait un hommage pour un jeune joueur qui est en devenir, c'est assez surprenant et rare. Est-ce que ça atteste d'une relation particulière qu'il y avait entre vous ou pas du tout?
Pas une relation particulière, mais vous voyez mon état d'esprit, vous voyez que j'étais bosseur, respectueux des anciens, et pourtant, bon, il m'a pas ménagé parce que moi j'étais ailier droit, et Frey, il faut lui mettre le ballon là où il demande. Sauf que moi, c'est pas ma qualité première de te faire un centre au cordeau, et de. Donc, il m'a pas ménagé, mais moi j'ai toujours travaillé, été respectueux de ça, et après, avec le temps, tu comprends qu'un buteur, il veut le ballon dans un endroit parce qu'il sait que si tu lui mets le ballon là, il y a de grandes chances qu'il fasse la différence. Donc, à gauche, il avait monté Rubio. Le ballon, il arrivait là où il voulait. Hein. Il n'y avait pas de problème. Et à droite, bon, voilà, ça a mis un peu de temps. Mais vous voyez que dans l'état d'esprit, voilà, je faisais du mieux que je pouvais. Et surtout, je jouais pour l'équipe. Ça, quand tu es jeune et que tu viens dans le groupe pro et que tu joues pour faire avancer l'équipe, ça, c'est quelque chose que les anciens apprécient. Parce que
C'est vrai.
forcément, tu es jeune. Toi aussi, tu veux te montrer. Toi aussi, tu veux percer. Mais d'abord, il faut penser à l'équipe. Et ça m'a suivi toute ma carrière.
Et du coup, bref, tu es bien entouré quand même pour émerger en tant que jeune joueur. On l'a dit, lui, il s'en va. Mais du coup, toi, en 3 ans, un peu plus, mais en 3 ans, à peu près 3 saisons, tu découvres l'Europe, le plus haut niveau, la régularité au plus haut niveau en étant en équipe première. Et il y a en 2008, si je dis pas de bêtises, l'hypothèse d'un transfert au PSG qui prend forme. Alors moi, petit, j'ai grandi en étant supporter du Paris Saint-Germain. Donc quand
Moi
on m'a
aussi.
dit, quand je sais bien en plus, quand on me dit Jimmy Briand proche du Paris Saint-Germain, les yeux comme ça, on se dit la bonne pioche. Pour rappeler le contexte, il y a le départ de Pedro Miguel Paoletta qui fait que le Paris Saint-Germain a besoin de se renforcer. Il y a eu l'arrivée de Waro, mais c'était un peu léger. On voulait vraiment renforcer le secteur offensif. Est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu vis les choses, à quel point ces échanges étaient avancés et pourquoi ça capote?
Alors ça c'est une grande pas un regret parce que je suis content de la carrière que j'ai eue, mais tu vois, comme je te l'ai dit, moi je suis issu de la région parisienne. Paris, c'était le club de mes rêves, c'était le club quand j'étais petit, que avec la maison de quartier on avait la chance des fois d'aller au parc. Voilà, c'était Paris. Et on arrive, ouais, en effet, déjà, il faut savoir, en 2007, en fait, je prolonge mon contrat parce que je commençais un petit peu à être sollicité. Je prolonge mon contrat avec une garantie de pouvoir partir à l'été 2008. Comme
Ok.
ça se fait, mais bon, on est à l'époque,
C'est important de le savoir.
on est en 2007-2008. Moi, c'est mon club formateur, le directeur sportif, ben, Pierre Drossier à l'époque, me dit, ben voilà, tu prolonges. Et nous, on voit que ta progression, à un moment donné, Rennes, ça va devenir trop petit. On va t'ouvrir les portes. Donc, ben moi, je prolonge, je suis content. On fait une bonne saison. Enfin, non, même pas, on ne fait pas une bonne saison. On fait une saison un peu moyenne. Et
Ouais.
t'as Pierre Drossi qui, en janvier ou février, je crois, décide de quitter le poste et de repartir directeur sportif. Et il prend en entraîneur Guy Lacombe. Voilà. Donc, Guy Lacombe qui arrive. Et moi, ça, je l'ai su après. Guy Lacombe, quand il arrive, il dit moi, j'accepte de signer, mais par contre, cet été, on garde Briand.
Ok.
Donc, ça, c'est le coach. Moi, j'ai un
Ok.
accord avec la direction. Mais ben, on arrive en été 2008. Ben, je tombe d'accord avec Paris. J'ai même déjà fait vider ma maison, préparer mon déménagement et tout.
Ah ouais.
Et ouais, j'ai trouvé ma maison à Paris. Ça y est, pour moi, j'étais à Paris.
D'accord.
J'ai eu Paul Le Guen qui, ben, voilà, qui me veut. Tout se passe comme il faut. Sauf qu'on arrive et aussi il dit, ben non, tu pars pas. Donc là, gros coup de froid. Je lui dis, comment ça, je pars pas? Voilà, ben le coach, il a besoin de toi. Je dis, ouais, mais nous, on avait un accord. Ouais, mais bon, voilà. Donc du coup, moi, je me braque, je décide de plus venir à l'entraînement, de forcer mon départ. Et puis finalement, à un moment donné, c'était la période où tu as David Sommeil qui fait un arrêt cardiaque et qui finalement repart et tout. Voilà, je commence à me dire, je suis dans. Là, ça fait 2 semaines que je suis en train de courir tout seul, que je vais plus aux entraînements, qu'il m'appelle tous les jours, je ne réponds pas. Je dis, moi, vous tombez d'accord. Tombé d'accord avec Paris. Et puis finalement, à un moment donné, ça dure trop longtemps. Et tu as Henri Pinault, le grand patron,
Ouais.
qui prend son téléphone. Ça veut dire que, alors, faut savoir, pour mettre dans le contexte, lui, il s'occupe jamais du sportif. Il y a des gens qui s'en occupent, mais lui, s'en occupe pas. Et là, il prend son téléphone, je vois un numéro masqué qui m'appelle. Bon, je me dis, je réponds. Ouais, bonjour, c'est Henri Pinault. Voilà, alors écoute bien, je vais te dire une chose, écoute bien. Je n'ai pas besoin d'argent. Si tu veux plus jouer, c'est ton problème. En tout cas, tu partiras pas de Rennes. Boum, il raccroche. J'ai dit, ah là là, ça commence à être chaud là. Là, ça commence à être chaud. Quand le patron, il a parlé. Donc je prends cet appel sans réponse, même pas le temps de m'expliquer, rien. Je dis, ah ouais, chaud. Et puis, ben, tu as l'accident de David Sommeil et tout. Et puis, tu as mes proches qui me disent, ben voilà, réfléchis, parce que là, tu tombes sur un os. Tu vois, tu peux des fois forcer ton départ et tout. Et puis, finalement, ben, tu as Alain Roche, qui à l'époque est directeur sportif du PSG, qui m'avait dit, ben, écoute, on va se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour du mercato. Voilà, on te veut. Et il s'avère qu'après cet appel, il me dit, moi, j'ai reçu l'appel de Pinot. Écoute, je laisse tomber et tout. Donc, à partir du moment où celui qui te dit on va se battre, il te laisse, tu retournes derrière toi, il n'y a plus personne,
Ah oui.
et ben voilà, je me suis dit, ben c'est l'heure de capituler, entre guillemets.
Ouais.
T'es quand même dans un bon club, tu sais que tu vas jouer. Et puis finalement, on est tombé d'accord sur une nouvelle réévaluation de mon contrat. Et puis tout doucement, je me suis remis dedans. Et puis finalement, j'ai fait une très bonne saison qui malheureusement s'est terminée par ma blessure.
Ouais.
Mais voilà l'épisode de Paris en gros. Et c'est dommage parce que c'était un rêve d'enfant. Mais bon, après, comme je dis, moi, je crois beaucoup, beaucoup au destin et peut-être que c'était pas mon
Ouais.
destin.
Ouais. Le retour à la vie quotidienne, quand on fait comme ça, quand on va si loin, parce que un joueur qui refuse d'aller à l'entraînement, c'est énorme. Comment on revient? Dans quel état d'esprit? Comment est-ce qu'on présente ses excuses au groupe? Comment ça se passe?
Franchement, c'est un retour normal. En fait, moi, je m'entendais bien avec tout le monde. J'avais aucun problème avec tout le monde. Donc,
D'accord.
je reviens un matin et puis, ben, je pose mes affaires et puis je viens m'entraîner. Et puis, tu vois, dès le week-end, le coach, il me fait jouer. Donc,
Ouais.
il n'y a vraiment pas de,
Ouais,
tu
y a pas
vois,
de sanction.
il n'y a pas de sanction, il n'y a rien parce que au fond, dans le fond de l'histoire, ils savent
Ouais.
que j'avais raison. Après, ben, dans la forme, oui, peut-être c'était pas la forme à adopter, mais voilà, j'étais jeune, j'avais 22 ans, 23 ans. Et finalement, je reviens début août, le coach me fait jouer dès le match, je marque. Bon, bien sûr, la mine, tu sais, tu veux toujours montrer un
Ouais,
peu que
bien
tu
sûr,
boudes et tout.
bien sûr.
Donc, et puis, voilà, je fais les deux premiers matchs, trois premiers matchs de la saison. Et fin août, tu as bah, Domenech qui me rappelle en sélection. Donc, ça te booste, ça te booste. Et puis, ça te montre que bah, tu vas pouvoir faire le taf à Rennes, quoi. Donc,
Ouais.
il a fallu, voilà, un mois pour évacuer tout ça. Mais
Quand même.
après, ça y est, après, j'étais bien. Moi, j'étais pas
D'accord.
malheureux à Rennes.
Ouais,
J'étais pas malheureux, hein. J'étais pas
après,
malheureux.
on voit qu'il y a un peu de talent chez le monsieur et qu'il retrouve goût au foot quand même.
Ouais, ah bah oui, non, non, puis j'étais avec mes potes et j'avais pas de problème avec Rennes, non, vraiment pas.
Donc, à part la promesse de départ et la tentation Paris Saint-Germain, il n'y a aucune autre raison qui te pousse à partir. Il n'y a pas de problème avec le coach, il n'y a pas de choses comme ça.
Rien, rien, rien. Alors
D'accord.
forcément, pendant la période de transfert un peu froid avec le coach,
Ouais, bien
voilà,
sûr.
il me renvoie une fois du terrain parce que ben, j'ai pas envie de jouer. Mais voilà, après, une fois qu'on est reparti, ben, une relation normale. En plus, je joue. Donc, tu sais, les joueurs, quand tu joues, tu oublies tout, en fait. Tu
Ouais.
oublies tout. Donc, voilà. Et puis aujourd'hui, quand je le revois, ben, on en rigole. Et puis c'est. Voilà, moi, dans le foot, je me dis, le foot, c'est le terrain, c'est quelque chose. Mais à côté, on a une vie d'homme. Et voilà, il n'y a pas de problème. Tous les coachs
D'accord.
que j'ai pu rencontrer, aujourd'hui, je pourrais leur serrer la main. Certains, je ne leur parlerai pas, mais je leur serrerai la main. Parce qu'il n'y a pas de problème.
À compter de cet instant-là, donc tu m'as parlé, il y a quand même ta blessure. C'est un épisode important, j'ai envie qu'on revienne dessus. Il y a ta blessure quand même en fin de saison alors que tu es en pleine bourre.
Ouais,
Comment on la prend cette blessure-là quand on est en pleine bourre comme ça? Parce que j'ai parlé avec Romain Alessandrini qui lui aussi est passé a eu un gros passage important pour sa carrière à Rennes. Il en a beaucoup souffert de ce moment-là parce que ça le coupe complètement, même s'il arrive à repartir après, mais ça le coupe complètement. Il me parlait de. Lui, il me disait quand même que c'était le plus haut niveau qu'il avait atteint dans sa carrière avant la blessure et qu'il n'a jamais su retrouver ça. Même s'il a beaucoup travaillé, même s'il a eu des périodes très bonnes, il n'a jamais retrouvé ça. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation-là un petit peu, que tu marchais sur l'eau et que tu n'as pas retrouvé.
Non, 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 j'étais à un très très haut niveau. Ben, la preuve, c'est que je me blesse en équipe de France, donc
Ouais.
c'est pas anodin si je suis en équipe de France et j'étais à un très bon niveau. Mais après ma blessure, j'ai atteint un niveau quasi similaire, peut-être pas le même parce que forcément il y a eu des petites différences dans le corps, mais j'atteins quand même un très bon niveau après. Je signe à Lyon pas longtemps après mon retour de blessure, mais oui, forcément, au moment où je me blesse, je suis dans une très bonne forme. Pour la petite anecdote, ouais, ben on est en équipe de France, on fait on est, je crois, on est à 2, 3 jours du match, on fait une petite mise en place et potentiellement. En tout cas, sur le moment, je vois qu'il met l'équipe un petit peu en place, le coach Domenech, et qui me met pour la première fois de ma jeune carrière titulaire en équipe de France. Après, c'était une mise en place 2 ou 3 jours avant. Ça aurait pu changer, mais en tout cas, bon, tu sens les signes, tu commences à sentir les signes. Et puis, l'après-midi, on fait une séance de jeu réduit. Et là, je me pète le genou.
Ouais.
Carasso qui me rentre dedans et qui me pète le genou. Donc, tu te dis, voilà, c'était un moment où normalement, tu aurais dû avoir un truc exceptionnel qui arrive. Et puis finalement, tu te retrouves sur le flanc pendant 9 mois. Et c'est pas facile à vivre. Mais bon, une fois de plus, ben, tu repars, tu travailles pour revenir de ta blessure et puis t'en reviens. Mais ouais, c'était un moment pas simple. Et je l'ai vécu difficilement au début, et puis après, quand j'ai vu que ça repartait, ben voilà, ça a été mieux.
Est-ce qu'il y a d'autres sollicitations avant l'OL? Il y a la blessure, certes, mais il y a d'autres propositions, il y a d'autres clubs qui viennent vers toi?
Ben ouais, en fait, ben tu vois, du coup, je loupe mon départ au PSG, je fais ma
Ouais.
saison et je me pète. Et en fait, quand je me pète, il faut savoir que l'année d'après, je me retrouve en fin de contrat. Donc, je me pète en mars, et la saison ben, continue. Du coup, je ne suis pas transféré l'été parce que je suis blessé. Je
Ouais.
repars la saison, il y a un nouveau coach qui arrive qui est Antonetti. Et du coup, on arrive en décembre où je reprends et je suis libre en juin d'après. Donc, tu te dis, bon, ben, c'est bon, tu sais, je vais partir libre. C'est bon, avec ce qu'ils m'ont fait, je vais partir libre. Et j'ai 6 mois pour revenir, pour me montrer et dire que je suis opérationnel, quoi. Donc, ça a été un leitmotiv. En plus, le fait qu'il y avait la Coupe du Monde 2010. Donc, je reviens en décembre et tu te dis, tu as un petit espoir, comme tu as fait partie de toutes les qualifs. Tu as un petit espoir. Et ça, c'est un gros leitmotiv pour revenir de blessure. Tu te dis, je vais être en forme et ça va le faire. En plus, tu as un coach qui arrive, Antonetti, qui vient te voir et qui te dit, moi, je compte sur toi, rétablis-toi bien, t'en fais pas, prends ton temps, tu seras dans mon équipe. Tu es un joueur que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours voulu avoir dans mon équipe. Donc, voilà, plein de signes positifs. Et du coup, je fais 6 mois de décembre jusqu'à mai, où je crois que je mets 7-8 buts, 6 passes, 5 ou 6 passes D. Bref, je fais une demi-saison top
Au
et au
top, ouais.
final, je me retrouve libre avec des sollicitations. Et voilà, je décide quand même de prolonger. Je décide de prolonger dans mon club formateur qui m'a formé avec voilà, tout le respect que j'ai pour ça. Et je décide de prolonger pour qu'il touche une indemnité de transfert. Et du coup, je pars à Lyon et j'avais le choix entre Lyon et Marseille. Mais voilà, pour moi, c'était malgré ce qu'ils avaient pu me faire et que j'avais vécu ça comme une injustice à l'époque. Pour moi, je pense qu'il faut savoir rendre aux gens ce que les gens ont pu faire pour toi, t'aider. Et donc, je prolonge avant de partir à Lyon.
C'est rare, hein, ce genre de geste dans le foot. Parce que,
Ouais,
en plus, après un différend, alors ça, vous êtes bien entendu à la fin, voilà, on décide de tourner la page, mais là, il n'y a aucun bâton dans les roues pour partir. Il y a même la possibilité, parce que là, on parle d'indemnité pour Rennes, mais toi, il y a la possibilité de prendre un beau chèque en arrivant libre dans un club. Tu décides de déjà leur donner de l'argent, mais en plus de ça, ils peuvent te la mettre encore une fois à l'envers et dire, bon, on te garde.
Non, non, parce que là, pour le coup, j'avais mis une clause écrite
Ah,
comme quoi je vais vous prolonger, mais je pars, quoi qu'il se passe.
d'accord.
Après, je crois que t'avais pas le droit à l'époque à des clauses écrites, mais en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis une clause que si je partais pas, j'avais un salaire, en gros, que le club pourrait jamais assumer. Donc,
D'accord. Ok, tu t'es
voilà,
couvert.
je m'étais
Tu t'es
couvert.
couvert.
Il y avait une indemnité de transfert qui était, on va dire, assez faible pour l'époque, pour le joueur que j'étais. Donc, voilà, leur intérêt. Et puis, je pense que quand tu prolonges après ce qui s'est passé, je pense que, bon, ils vont pas te la faire deux fois. C'est possible, hein, mais bon,
Non, et puis
ils vont pas te la
c'est bon,
faire deux fois.
le geste que tu fais, il est assez beau pour pas en plus en rajouter une couche.
Non, non, non. Donc, voilà, après.
Mais tu me parles de l'OM alors. Alors, déjà jusqu'où ça va? Comment se mettent en place les pions pour le transfert? Et pourquoi toi tu décides, au-delà du côté je suis parisien qui joue un petit peu, comment tu décides d'aller à l'OL plutôt qu'à l'OM?
En fait, j'ai des sollicitations à l'étranger également, mais tout de suite je les ferme. En fait, je sors de Rennes, je reviens de blessure et je me dis avant de éventuellement partir dans un club étranger, voilà, faut que je passe par un grand club français, que je joue la Ligue des Champions, que voilà, m'affirmer dans un club de haut tableau de France. Et donc, j'ai soit le choix entre Lyon et Marseille, donc j'ai des choix au téléphone, qui à l'époque vient de sortir champion de France. J'ai Lyon également, qui vient de perdre son titre depuis 2 ans. Et voilà, tu as un choix à faire. Donc, voilà, tu te poses, tu regardes, et puis finalement, tu choisis Lyon parce que il y a un projet où tu as Govou qui part, où on te dit que tu vas être son remplaçant. Et puis, Lyon, c'est un club, malgré tout, qui sur la dernière décennie avant que je signe, était le club phare, quoi. Donc,
Ouais, bien sûr,
oui, il y
bien
avait
sûr.
ce côté Marseille qui est, on va dire, un peu plus passion, mais Lyon, c'était la régularité. Et j'avais, voilà, envie de découvrir ce grand club, de découvrir ce président qui est quelqu'un. Et au final, ça se fait avec Lyon et Claude Puel, entraîneur. Donc voilà, je rejoins une très grosse équipe malgré tout. C'est plus un choix. Il n'y a pas une histoire de
Une
Marseille,
critique, il n'y a pas de
Paris.
critique,
Non,
ouais, non.
non, 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 c'est un choix.
D'accord,
Voilà.
d'accord. Bah alors, j'ai regardé un petit peu les interviews que tu avais données sur justement ce passage-là de ta carrière, où tu parles c'est un gros choc, déjà on le devine de l'extérieur, au passé de Rennes, même si c'est un très bon Rennes, passer de Rennes à l'OL, il y a évidemment un énorme monde d'écart entre les deux, surtout à ce moment-là. Alors, je t'ai entendu, comme je t'ai dit, parler, je t'ai lu surtout dans des interviews où tu parles de ce moment d'adaptation où tu étais passé notamment chez RMC dans le vestiaire, où tu en avais parlé un petit peu avec Manu Petit notamment. sur ce que ça voulait dire évoluer dans un club de cette envergure. Est-ce que tu peux me parler du sentiment que tu as au moment où tu mets les pieds là-bas? Est-ce que le choc, je ne vais pas dire de culture, mais le choc en termes d'ambition, il est tout de suite, il t'arrive dans la tête, ou c'est au fur et à mesure de la saison?
Non, il arrive tout de suite. Déjà, quand je signe là-bas, j'étais réserviste pour la Coupe du Monde. Donc, c'est la Coupe du Monde 2010. Voilà, il y a les 23 et puis tu as 6 réservistes. Donc, j'ai malgré tout, on va dire, un début de petit statut. Tu es presque convoqué pour la Coupe du Monde. Tu arrives dans un club qui joue la Ligue des Champions. Eh ben, il faut assumer. Donc, moi, j'arrive avec l'ambition de m'imposer. Parce que pour moi, si tu quittes Rennes, c'est que tu vas dans un club où tu vas jouer. Tu vas plus à 23 ans, tu vas pas pour être sur le banc ou pour être dans la rotation. Donc voilà, j'y vais vraiment avec l'idée de m'imposer. Et tu arrives dans un club avec beaucoup de concurrence, avec tous les matchs, il faut les jouer pour les gagner. Ce qui est, bah, tu joues toujours un match pour les gagner, mais on va dire quand tu es à Lyon, c'est une obligation. À Rennes, il y a des matchs, tu vas te dire, bon, ben. Allez, on espère qu'on va le gagner, mais si on le perd, bon, c'est pas grave. Non, à Lyon, tu dois gagner tous les matchs. T'as le président qui te le répète. À Lyon, tu es là pour jouer le titre. Tu es là pour remporter des trophées. Tu es là pour représenter l'institution de l'OL. Et ça, c'est un grand changement. Et ça vient petit à petit. Tu peux pas arriver tout de suite et dire, ouais, je suis prêt pour tout ça. Non, ça vient au fil des matchs. Tu rencontres les gens qui sont là. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas gagné le titre, alors qu'ils restaient sur 7 ans de titres d'affilée. Donc voilà, c'est une certaine pression, mais tu viens à Lyon pour ça finalement. Tu viens à Lyon pour connaître ses émotions, pour connaître cette pression et te juger par rapport au niveau, parce que tu découvres la Ligue des Champions, tu découvres les matchs à enjeu, tu découvres les derbies à enjeu, tu découvres tout ça. Et ça, c'est pour ça que tu signes dans un grand club en France.
Tu avais parlé dans cette interview-là chez RMC, tu avais parlé d'une altercation, notamment, je crois, entre Diakabi et Chris. Diakaté, pardon,
Diakaté,
Diakaté et Chris. Alors, je ne veux pas revenir sur cette altercation-là. Mais est-ce que à ce moment-là exactement, parce que ça correspond, je remets dans le contexte, j'ai reçu pas mal de Lyonnais qui m'ont parlé de cette situation-là, de transition entre le grand OL champion avec les anciens qui étaient encore là, les Chris, tout ça, qui étaient encore là, qui voient le club évoluer dans une autre direction pour essayer de combler les défauts, les petits manquements qu'il peut y avoir, et la nouvelle génération, soit de jeunes, soit de nouvelles recrues, qui s'adaptent à un nouveau grand club. La période sous Claude Puel, surtout au début, il y a pas mal de changements que lui essaye de mettre en place qui créent des tensions dans le vestiaire. Ça va un peu dans le sens de ce que tu racontais dans ton interview chez RMC. Toi, tu l'as mis sur le dos de l'ambition. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'était un peu tendu quand même dans ce vestiaire-là à cet instant précis?
Franchement, c'était pas tendu. Il y avait rien de tendu. Il y avait alors des petites histoires, comme dans tous les clubs. Mais je pense que, en fait, t'as un groupe et un club qui a été habitué à gagner tout le temps. Et quand tu gagnes moins, forcément, ben, tu cherches des explications un peu partout. Pourquoi, comment? Et ça peut créer des petites tensions. Mais l'ambiance au sein du vestiaire, il n'y a jamais eu d'embrouille ou de tension. Mais t'as ce club qui a du mal à retrouver son standing. Et ça, ça c'est dur à vivre pour tout le monde, pour ceux qui ont été là déjà depuis longtemps, ceux qui viennent d'arriver, parce que forcément, quand tu viens à Lyon, tu dis, ah ouais, chouette, je vais prendre des titres, j'y vais pour prendre des titres. Et tu vois que ça ne se passe pas comme tu veux. Les plus jeunes qui arrivent, qui ont connu malgré tout derrière leurs écrans les belles épopées et qui s'y voient aussi. Et tout ça crée voilà, une situation un peu tendue, mais au sein du club, au sein du groupe, tu sens jamais cette tension. Hein.
D'accord.
Tu sens jamais. Non.
Qui t'accompagne, qui t'aide dans... Parce que t'es pas un bébé à ce moment-là, t'es pas un jeune joueur, t'es un joueur qui a quand même du vécu et qui rentre dans la meilleure partie de sa carrière. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui te guide un peu, qui te montre les petites ficelles du club ou pas?
Oui. Moi, quand j'arrive, je connais quelques joueurs avec qui j'ai joué en espoir ou même à Rennes avec Karlström. Mais tu as vraiment Baffé, Gomis, qui est déjà là-bas, qui est arrivé il y a un an. Donc lui, il est arrivé l'année après le dernier titre. Donc bon, tu as perdu le dernier titre. C'est Montpellier, je crois, qui est champion. Voilà, il t'explique. Il faut retrouver les sommets. Tu es dans un club où il faut gagner. Tu es dans un club où il faut que tu sois toujours en haut. Tu es un avant-centre. Tu dois marquer tant de buts. Voilà, et il te guide. Il t'explique comment le club il fonctionne. Surtout, bah, lui, il a vécu ça un an avant parce qu'il était une recrue. Il était une recrue, en plus qu'il venait de Saint-Étienne. Voilà, il m'explique tout ça et ça me fait du bien parce qu'on joue ensemble en plus devant et ça me permet de d'être tout de suite dans la culture du club et dans ce que ce club demande comme exigence, quoi. Donc, ça a été un support important. Après, on se connaissait depuis les sélections de jeunes. On avait suivi nos carrières parce qu'on est de la même année, on est né à 4 jours d'intervalle. Donc voilà, ce soutien-là, je l'oublierai jamais parce qu'il m'a fait un bien fou.
Bon alors, tu me l'as dit, tu découvres du coup l'ambition du très très haut niveau. C'est pas facile de se mettre au niveau, mais quand même dans ton nombre de participations en match et tout, on sent que ben voilà, tu assumes le statut avec lequel tu es arrivé, tu es un joueur très important de l'effectif. Tu fais tes matchs, tu es un titulaire. Il y a deux choses qui viennent avec la pression et le haut niveau. Il y a le prestige, la possibilité de faire des titres, mais il y a aussi le côté très lourd du poids de la défaite, voire des défaites dans des conditions très compliquées. Tu découvres la Ligue des Champions. Enfin, la Ligue des Champions de très haut niveau. Deux éliminations à huitième. La première face au Real Madrid. Jusque-là, on peut rien dire, monsieur. C'est dommage pour le club qui a l'habitude d'aller, qui vise plus haut. Mais c'est le Real Madrid, on ne peut pas non plus vous taper dessus. La deuxième, c'est contre Nicosie. C'est la première fois que tu connais une désillusion si importante en club. Que ce soit pas,
Oui.
enfin, je veux dire, c'est un club, vous étiez censé largement écraser ce club-là, en tout cas sur le papier, on vous dit ça, et tout le monde l'attend comme ça. Et il y a un mini raz-de-marée quand même qui se met en place après ça, après cette élimination-là. Comment toi, qui vis ça pour la première fois, bah, comment tu le vis?
Bah, tu le vis mal parce que déjà tu sors des poules d'un miracle. Aujourd'hui, même les gens ils se demandent comment tu as fait pour aller
Ouais.
battre Dynamo Zagreb 7-1 et tu te qualifies. Tu as la chance de tomber contre Nicosie. Tu dis les planètes elles sont alignées donc tu vas là-bas et tu te fais éliminer. Mais c'est dramatique et les jours qui ont suivi, c'est dramatique. C'est là que tu comprends et que tu prends conscience que dans un grand club. La défaite, elle est interdite contre qui que ce soit. Et on te le fait comprendre. On te le fait comprendre en ville, on te le fait comprendre au club, le président te le fait comprendre. Et ça, c'est une défaite qui a été très dure, ouais, qui a été très dure à vivre. Ouais.
Comment vous vous en remettez en interne? Parce qu'on a l'impression, tu sais, avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, par exemple, en février, si le club n'est pas passé, on sent que la fin de saison, elle est longue jusqu'à l'année d'après. C'est un peu ça, l'OL. C'est un peu le même
Pareil,
scénario.
c'est exactement la même chose. Et au final, ben, tu te rajoutes une pression encore plus incroyable, c'est que tu es obligé de te requalifier pour la Ligue des Champions. Et là, tu arrives dans une période où il y a des équipes qui commencent à émerger, où c'est plus aussi évident que ça que l'OL soit en Ligue des Champions. Et puis, heureusement que cette fin de saison, tu termines troisième, tu te qualifies pour le tour préliminaire. Mais forcément, quand tu te fais éliminer par Nicosie, la fin de saison, ben, t'as plus de droit à l'erreur, t'as déjà épuisé toutes tes cartouches, quoi.
Dans le foot, on parle souvent de cycle. Là, pour toi, personnellement, tu sors de Rennes, bon club français, tu arrives à Lyon, excellent club français, tu vis plusieurs saisons. Tu signes là-bas, on l'a dit, les joueurs, ils signent là-bas souvent pour engranger des titres. Parce que Lyon sort d'une grosse domination, on s'attend à ce qu'elle continue encore un peu. Même s'il y a eu l'anomalie, entre guillemets, des deux titres perdus, on se dit que Lyon va reprendre son droit. Ça ne se passe pas comme ça. On dit que 3 saisons dans un club, dans le foot, c'est un moment où on fait un bilan déjà. Est-ce que toi, il y a un moment où tu te dis, finalement, l'OL, c'est pas aussi cool, stylé que je pouvais le croire en arrivant? Est-ce qu'il y a une remise en question où tu te dis peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs, après ce moment-là?
Après ce moment-là, non, mais le club te le fait sentir parce que tu termines ta troisième saison et ils te disent eh ben, aujourd'hui, on est dans une nouvelle politique, il faut que tu partes. Voilà, tu as un trop gros contrat, il faut que tu partes, donc trouve une solution. Et moi, personnellement, après 3 ans, ouais, tu dis tu vas à Lyon, tu vas gagner des titres, tu vas te dire c'est tu vas enchaîner les titres, tu vas. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, intérieurement, tu as envie de rester pour dire, hey, je veux vous montrer que je peux être décisif et je peux faire partie de cette OL qui arrive à regagner des titres. Et puis, ben, on arrive à l'été 2013 où tu as le club qui te dit, ben, il faut que tu partes. Donc, ils m'envoient en réserve avec Baffé. Et ils me disent, ben, trouver une solution parce que, voilà, une nouvelle politique, on ne veut plus de gros salaires. Et vous êtes sur la fin à Lyon, quoi. Donc, compliqué, pareil, compliqué, mais ce sont les grands clubs. j'ai envie de dire.
Tu me dis si tu as envie d'en parler ou pas, c'est Yoann Gourcuff. Alors lui aussi, il est arrivé en grande pompe avec un statut, avec des attentes et avec des moments compliqués. Est-ce que toi, il y a un rapprochement qui se fait? Est-ce qu'il a un échange avec toi? Est-ce qu'il y a des petites confidences qui se font par rapport à ce que vous vivez?
Mais bien sûr, parce que moi, Johan, je l'ai connu au centre de formation à Rennes. C'est un ami. Et quand il vient à Lyon et qu'on l'annonce comme ça en grande pompe et qu'on lui prépare tout ça autour de lui, me dis, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas lui. C'est pas lui, ça lui ressemble pas. Et encore plus dans un club qui est dans une période un peu, on va dire, limite et qu'on te présente comme le sauveur. Non. Ça, c'est pas pour Johan. Johan, c'est un joueur collectif, c'est un joueur d'équipe qui se fond dans une équipe. C'est pas lui qui va, il va sauver l'équipe après, mais une fois qu'il sera fondu dans l'équipe. Et moi, voilà, j'ai essayé de le soutenir le plus possible dans cette période-là. Il avait vraiment envie de réussir à Lyon, mais c'était trop compliqué, je pense, tout ce qui s'est passé, ses blessures, malheureusement. Et c'est dommage parce que c'est le genre de joueur qui aurait pu ramener Lyon. Là où il mérite d'être, c'est sûr.
Donc dès le départ, l'approche, elle n'est pas bonne.
De Lyon, moi je pense qu'elle
Ouais,
n'est
de
pas
Lyon.
bonne.
De
Personnellement,
Lyon.
je pense qu'elle n'est pas bonne. Je pense.
Ouais.
Après, forcément, quand tu fais
Non, mais
venir
ça
un
colle,
aussi
c'est
grand
vrai.
joueur, quand tu fais venir un aussi grand joueur, tu es obligé de faire un coup de marketing. Tu es obligé
Ouais, bien sûr.
de... Donc ça se comprend. Mais ce n'est pas sa personnalité. Ce n'est
Ouais.
pas quelqu'un qui aime ça forcément. Et lui, il aime juste jouer au foot.
Ouais. Rémi Garde à Lyon. Très apprécié. Très apprécié par la jeune génération. J'ai parlé à Jordan Ferré notamment, qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de lui et que justement il était le bon personnage au bon moment pour ce Lyon-là qui avait besoin d'être redressé. Quand j'ai fait notre préparation d'interview, je retombe sur la période où justement tu es un peu envoyé on veut se débarrasser de toi. On te fait rentrer, je crois, en préparation à la toute fin de match à la place de Lacazette. Et ça pète un peu. Alors déjà, est-ce que tu peux me parler de ce que tu ressens à ce moment-là, de l'échange qu'il y a entre vous, parce que lui, il dit que vous avez discuté et que les choses sont un peu aplanies et que vous allez trouver une solution pour d'ici la fin du mercato. C'est un peu du discours de façade. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il en est à ce moment-là?
Alors, franchement, pour répondre à ta question, je te dirais pas les deux coachs à qui je serrais pas la main, mais Rémi Garde, je lui serrerai la main. On s'est déjà revu, on s'est déjà
D'accord.
expliqué et j'ai aucun problème avec lui. Et tu vois, la preuve, c'est qu'il a même voulu me faire venir à Montréal quelques années
C'est
après.
vrai.
Donc, non, sur le moment, tu sens une injustice parce qu'on veut te mettre dehors, pas pour des raisons sportives, pour des raisons plus contractuelles. Et puis, tu te sens, on va dire, un peu lésé. Donc, ça se passe plus ou moins bien, mais moi je suis en fin de contrat. Donc du coup, moi je dis mon intérêt finalement c'est de jouer, de me faire remarquer pour pouvoir partir en fin de saison. Donc ça va, ça se passe bien. Voilà quelques petits accrochages, mais toujours dans le respect, j'ai envie de dire. Et j'ai aucun souci avec lui. Et tu vois, preuve en est même, c'est que ça aussi, on n'en a jamais parlé, mais quand je quitte Lyon en fin de contrat, le président m'avait même fait une proposition de contrat pour prolonger.
Ah bon?
Ouais, il m'a fait une
Ah ouais, ça, j'ai jamais
proposition.
entendu parler.
Alors, moi, maintenant, avec le recul, c'était une proposition, on va dire, pas bidon, mais voilà, pas terrible. Alors, est-ce que c'était pour dire, bah, nous, on l'a quand même proposé quelque chose, mais il
Ouais.
ne voulait pas rester? Ou parce que, bon, tu ne pouvais pas passer de là à là.
Ouais,
Donc,
bien sûr.
mais quand même, il y avait quand même eu cette démarche auprès de mon agent. Et bon, moi, là, j'étais déjà la tête ailleurs. Et puis, de toute façon, je pense qu'on ne serait jamais tombé d'accord avec les écarts qu'il y avait. Mais pour dire que non, à Lyon, j'ai eu aussi Claude Puel qui, à un moment donné, m'a mis sur le banc. Mais j'ai jamais eu de problème avec ces coachs-là et je les apprécie vraiment.
Cette fin d'aventure à l'OL. Dis-moi un peu ce qu'il en est. Quelle proposition tu as sur la table? Est-ce qu'il y a une volonté de ta part? Parce qu'au départ, quand tu quittes le Rennes, tu dis que tu veux rester en France, même si tu as des propositions d'étrangers. Est-ce que là, il y a une volonté de découvrir la vie à l'étranger?
Ouais, clairement. Clairement, tu sors de 4 ans à Lyon où tu as découvert le haut niveau et tu te dis, ben, après Lyon, normalement, c'est départ pour l'étranger. Donc, oui, il y a cette volonté. Après, cette volonté, tu n'as pas les offres qui t'intéressent. Donc, à partir de là, eh ben, tu restes, tu passes pareil, comme tout à l'heure. Tu es en fin de contrat au 30 juin, tu te dis, ah ouais, c'est bon, au 30 juin, déjà, tu te dis même avant le 30 juin, les clubs ils vont se renseigner. Et puis finalement, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas des clubs qui t'attirent, tu n'as pas des. Et au final, ben, je me retrouve à fin mi-août, où j'ai toujours pas eu de propositions concrètes. J'ai eu une seule, enfin deux propositions. J'ai eu West Ham, qui. Voilà, après West Ham, à l'époque, t'y vas. J'avais été là-bas sur place. Et puis quand tu arrives là-bas sur place, le contrat, ce n'est pas le même que tu as parlé. Donc pas pro. Voilà, donc tu rentres à Lyon. Et puis j'avais Lens avec Camboiré, qui déjà à l'époque était à Lens et qui, promu de Ligue 2 en Ligue 1, qui monte et qui cherche voilà, des joueurs pour se renforcer. Mais tu sors de Lyon. Donc tu te dis, attends, je sors de Lyon, je ne vais pas aller chez un promu. Et pourtant, Camboiré m'avait, voilà, j'avais déjà à l'époque une belle image de lui. Et je me dis, mais attends, tu ne peux pas sortir de Lyon et aller à Lens. Et ben, du coup, tu refuses et puis tu attends, le temps il passe, le temps il passe, et puis tu n'as pas la proposition qui te fait kiffer. Tu as des petites approches un petit peu de clubs intermédiaires, mais tu n'as pas le club qui t'intéresse. Donc, au final, tu arrives
Mais
limite.
c'est quoi la fourchette de clubs qui t'intéresse à ce moment-là? Parce que, alors, objectivement,
Bah,
je suppose que
quand.
tu t'attendais pas à ce que Barcelone ou le Real Madrid viennent te chercher,
Non,
mais c'est à peu
clairement
près quel
pas.
niveau que t'attends?
Bah, tu vois, quand tu sors de Lyon, tu t'espères au minimum des clubs, on va dire, alors pas le Big Four d'Angleterre, mais on va dire les clubs en dessous, genre Everton, Aston Villa,
D'accord.
enfin des clubs quand même qui comptent. Je pense
Ouais.
pour parler de l'Angleterre, hein,
Ouais,
tu
bien
vois,
sûr.
tu dis, voilà, t'espères voilà, plus jeune, tu as eu en plus des contacts avec ces clubs, tu dis, attends, ils t'ont oublié ou t'es devenu bidon ou je sais pas, tu te poses des questions parce que t'es libre déjà. Alors oui, tu sors d'une saison où tu as joué, on va dire, la moitié des matchs, pas toujours titulaire et tout, mais tu te dis, t'as fait 4 ans à Lyon, t'as montré qu'en Ligue des Champions, tu avais le niveau, et t'as même pas un club comme ça qui est en libre, qui s'intéresse concrètement, on va dire, à toi. Et au final, ben, on arrive mi-août et puis tu as un club allemand qui t'appelle, et puis tu te dis, bah ouais, j'y vais. Et pourtant, c'est un club qui lutte pour pas descendre, mais. Voilà, tu dis, attends, je vais attendre quoi? Je vais attendre encore fin août et puis je vais arriver, je ne vais pas avoir de club. Et non, donc du coup, je signe à Hanovre.
J'ai pour maintenant, je peux le dire, entre guillemets, expérience, parce que j'en ai vu défiler dans cette émission. Quand quelque chose est fait un petit peu à contre-cœur, ça marche jamais vraiment très bien. Jamais vraiment très bien. Tu dis, vous jouez là, le maintien. 13e, vous finissez. Ça va. Je veux dire que le maintien, il est assuré, il est bien assuré.
À
Allez,
Hanovre,
sur
on
les
te
gars.
dit?
Ouais.
Non, ouais, à Hanovre, on finit 13e, mais jusqu'à l'avant-dernière journée, tu es 17e et tu gagnes deux derniers matchs qui te permettent
Ouais.
d'avoir cette impression que c'est pas trop mal. Mais ouais,
Oui, c'est
c'est
vrai, t'as
chaud.
raison. T'as raison. La saison, elle est chaude. Mais en tout cas, mission réussie. Mission réussie. Vous vous maintenez. Mais personnellement, c'est loin d'être la meilleure saison en termes de chiffres que tu as pu faire. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Alors, si tout n'est pas dans les chiffres, tout n'est pas dans les stats, le rôle que tu avais là-bas, il était différent. Tu avais le rôle quand même d'un joueur aguerri, d'un joueur expérimenté qui venait aider un groupe dans une mission compliquée. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage-là à l'étranger?
Franchement, que des très bons souvenirs. Que des très bons souvenirs. Parce que tu découvres une autre culture, tu découvres un club, oui, qui joue le maintien, mais qui a des installations, ça joue pas forcément le maintien, c'est vraiment le haut niveau. Mais oui, tu arrives dans une équipe compliquée. Tu joues milieu de terrain droit dans une équipe en difficulté, donc tu joues arrière droit. Tu joues pas milieu droit, tu joues arrière droit. Et puis avec le très peu que tu as, il faut que tu arrives à faire quelque chose. Donc ça a été une année compliquée mais enrichissante, enrichissante au niveau personnel, au niveau humain. Et puis tu vois, quand je vois, il y a des joueurs qui aujourd'hui, je les retrouve dans les clubs de très bon niveau. Tu vois, j'ai joué quand même avec des Sakai qui étaient à Marseille, des Marcelo que j'ai retrouvé à Lyon, des Stindl, des Rossellou en Espagne. Il y avait des bons joueurs. Donc, j'ai vécu vraiment une bonne expérience. Après, c'était compliqué parce que j'étais tout seul. Je n'avais pas ma famille qui était avec moi à Hanovre. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué parce que je faisais les allers-retours entre Lyon et Hanovre et à un moment donné, ça m'a saoulé.
Ta famille, elle te suit pas.
Non, parce que tu n'as pas d'école française. Et le problème, c'est que tu te dis, ouais, mais attends, c'est pas grave, tu les mets quand c'est en Angleterre, ils vont apprendre l'anglais, pas de souci, ça roule. Mais là, l'Allemagne, j'avais signé que 1 an parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Donc j'avais signé 1 an et je me suis dit, si ça se passe bien, on verra. Pourquoi pas, hein, l'allemand, mais et au final, ben, on lutte pour pas descendre. Et puis voilà, eux me proposent une prolongation, mais moi, voilà, les allers-retours, c'était trop dur pour moi.
Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, il y a une déception par rapport à cette expérience à l'étranger? C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose que tu as attendu très longtemps. Quand je dis déception, j'entends pas déception en disant ça s'est mal passé à Nord. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, ça a coupé, enfin, elle est quand même écourtée. Elle n'est pas aussi longue qu'un cycle de foot, comme on peut parler, au moins 2 ou 3 ans, tu vois. Est-ce que pour pleinement vivre et savoir ce que c'est vivre à l'étranger, il aurait fallu que ça dure un petit peu plus longtemps ou pas, toi, de ton avis avec le recul?
Ah ouais, clairement, c'est dans cet axe-là, oui, il y a une déception de ne pas avoir vécu plus longtemps à l'étranger et connaître tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Mais une fois que je quitte Hanovre, je repars, je signe à Guingamp du coup, mais toujours avec cette idée, pourquoi pas d'avoir une autre aventure à l'étranger. Donc,
D'accord.
une déception parce que ça n'a pas duré, mais c'est pas fini. Quand je signe à Guingamp, j'ai 30 ans, en pleine fleur de l'âge. Donc, voilà, pour moi, c'est pas fini. C'est juste pour, tu vas à Guingamp pour te relancer dans un club qui, tu sais que tu vas jouer, tu sais que tu vas jouer à ton poste, et tu vas pour te relancer, clairement.
Ça dure un peu plus longtemps qu'une simple relance à Guingamp, finalement.
Ouais,
Alors pourquoi ça dure plus longtemps? Parce que tu t'y plais ou parce qu'il y a aussi un manque de comment ça s'appelle, de projet intéressant qui vient à côté?
un coach qui me fait venir, qui est Gourvennec, qui va me positionner dans ma position, qui va me donner tout le temps de jeu que je suis venu chercher, qui prend du plaisir dans cette équipe. Et puis ensuite, il part et t'as Camboiré qui arrive. Et Camboiré, le premier jour, il arrive, il a dit, je veux que tu sois mon capitaine. Donc,
Ouais, c'est fort
tu te
ça.
sens bien, en fait, tu te sens bien. Tu te sens bien, tu retrouves des sensations, tu marques des buts, tu sens que tu es une personne importante dans l'équipe et au club. Maintenant, tu es capitaine de l'équipe. Voilà, je dis, quand tu te sens bien quelque part, pourquoi partir? Pourquoi partir?
Bon, tu dis quand tu signes à Guingamp, t'as 30 ans.
Ouais.
Alors finalement, tu restes pas qu'une saison, tu restes 3. Donc on est dans les 33, on approche des 34. La mentalité, l'état d'esprit à ce moment-là, c'est quoi? Parce que, alors, j'y vais en marchant sur des œufs. Mais il y a cette idée de départ à Montréal, avec, tu l'as dit, Rémy Garde qui te fait un bel appel du pied. Toi, dans ton idée, c'est justement, on est dans cette idée de repartir sur une expérience à l'étranger que tu voulais absolument connaître, c'est ça?
Ouais, parfois, oui. Au fond de mon esprit, oui. Après, voilà, les circonstances ont fait que ça s'est pas terminé comme je voulais. Donc, je voulais partir là-bas. Et voilà, c'est compliqué, comme je t'ai dit, d'en parler parce que c'est ça fait encore mal. Mais voilà, l'idée c'était de partir à Montréal, vivre une expérience unique avec ta famille, avec pour 3 ans. Donc voilà, limite même pourquoi pas t'installer là-bas. Donc voilà, c'est une fin compliquée, mais moi je retiens juste les 3 super années que j'ai passées. J'étais apprécié du public, j'étais apprécié de tout le monde, et je veux pas que cette fin me fasse oublier tous les bons moments que j'ai pu passer. Donc voilà, j'ai pas de problème, même quand je retourne des fois en Bretagne, quand je retourne, voilà, les gens ils m'apprécient. Après, tout le monde n'a pas les tenants et les aboutissements, c'est pas le lieu pour en parler comme j'ai pu te dire, mais voilà, moi je garde qu'une bonne expérience de Guingamp.
Alors Bordeaux, comment dire, c'est un peu particulier parce que depuis quelques années à Bordeaux, on a tous un peu de mal à suivre ce qui s'y passe. Il y a des projets, des débuts de projets, des coachs finalement qui s'en vont. C'est un peu difficile à suivre. Alors c'est déjà pas le club le plus médiatique en termes généraux, enfin d'habitude, c'est-à-dire que à part la grosse, récemment le passage Gourcuff, le passage Laurent Blanc, il n'y a pas trop eu de gros intérêts médiatiques sur Bordeaux. Et là, on est dans le flou total. De l'intérieur, quand on est joueur et qu'on voit un flou aussi important dans l'organisation, dans la suite du projet du club, Comment on vit ça?
Franchement, voilà, je signe à quasi 34 ans à Bordeaux. Je signe le lundi et le jeudi, le coach qui t'a fait venir, il dit je pars. Donc tu sens déjà que tu sens que ça va être un petit peu. Mais bon, tu dis, tu pensais avoir tout vu dans le foot, mais finalement, non, le coach qui te fait venir, eh ben, je pense qu'il était mal déjà avec la direction, il avait du mal à prendre des joueurs, à recruter des joueurs, bon, finalement, il me fait venir et puis il part. Donc tu te dis, bon, ça part sur une base un peu compliquée, derrière, tu as le changement de propriétaire. Donc après un mois, j'avais déjà connu deux entraîneurs et deux directions. Mais malgré tout, c'était à Bordeaux. Tu dis que c'est un club historique, c'est un club mythique et que les gens qui sont censés être au pouvoir, ils ont cette idée du club et ils veulent le remettre là où le club mérite d'être parce que c'est un club historique, tout simplement.
Ouais, c'est vrai,
Donc,
c'est un club historique.
tu penses à ça et tu penses que ça va aller comme ça, que ça va tout va se remettre tout va se remettre sur les bons rails. Tu
D'accord.
penses vraiment et toutes les 4 années que j'ai passées. À chaque fois, tu te dis ça va repartir. C'est pas possible qu'un club comme ça, il parte à la dérive comme ça.
Alors, il y a plusieurs éléments. Je suis d'accord avec toi, de toute
Bah,
façon, on
là,
est
il y a
venu de
plein
l'expérience.
d'éléments. Là, on va passer. Si on parle de tous les éléments, on va
Ouais, non, on va
passer.
pas. J'avoue, j'ai envie de m'intéresser au foot et purement au foot. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs administratifs, dans ce genre de choses. J'ai entendu plein de choses différentes dans ces interviews, de contrats, d'accords, pas d'accords, de trahison, de machin, la vie en général. On dit que c'est la vie du foot, mais c'est la vie en général. Mais là, c'est tellement bizarre que j'aurais du mal à savoir par où commencer. Et comme on est sur la fin, j'ai pas envie de rester encore 5 heures avec toi. T'as du temps, t'as une vie. Parle-moi un peu de l'ambiance en interne, parce qu'il y a quand même des éléments importants. Il y a l'épisode Laurent Koscielny. On va parler que des joueurs. J'ai pas envie de parler des coachs, machin. On va parler que des joueurs et de la direction. On va parler que des joueurs. Il y a l'épisode Laurent Koscielny, qui est un joueur hyper important quand il est recruté pour remettre le club et l'équipe sur le bon rail, avec une image de droiture, d'investissement, d'engagement important à Bordeaux, parce que ça avait été beaucoup remis en question par les supporters notamment. On a un super beau message qui est envoyé avec le recrutement de Laurent Koscielny. Peu de temps après, ça part en vrille. Vous qui voyez ça, vous vous dites quoi? Est-ce qu'à un moment on se dit, ça pue, faut que je m'en aille de ce club?
Non, même pas, mais ça fait bizarre parce que, comme tu l'as dit, Laurent, quand il vient dans le club, c'est pour remettre le club tout en haut. C'est la recrue phare du projet américain. Et après, il y a un changement de direction. Et quand il y a des changements, et ben, les gens, ceux qui prennent le pouvoir, ils veulent faire leur changement. Et visiblement, eux, leur changement, et ben, c'était Laurent. Donc, nous, comment on le prend? Et ben, oui, on est un peu choqué parce que tu te dis, attends, si ça arrive à Laurent Koscielny, qui est Laurent Koscielny, tu te dis, ben, ça peut t'arriver à toi aussi. Et voilà. Donc, c'est le seul sentiment qu'il y a vraiment, c'est que tu te dis, ben, personne n'est à l'abri. S'ils ont décidé de changer, s'ils ont décidé de partir sur un autre virage et que tu ne fais pas partie du virage, eh ben, on te sort de la route, quoi. Donc, il n'y a pas plus que ça, en fait. C'est juste ce sentiment de dire, personne n'est à l'abri. Il va falloir faire le taf parce que, à tout moment, tu peux être sur la sellette.
Alors, tu l'as dit, ça peut arriver à n'importe qui. On avait l'impression d'ailleurs que ça arrivait un petit peu à n'importe qui. Il y avait Benoît Costil, c'était aussi un peu tendu sur la fin. Même toi qui as clamé haut et fort ton envie de défendre ce club, même en Ligue 2, bah on sent que le club a un peu saisi l'opportunité pour que ça s'arrête. Tout le temps, on passe notre temps à entendre dans le foot, la confiance, c'est hyper important. Quand on voit que des joueurs de cette envergure, des joueurs avec autant d'engagement dans un club sont mis de côté comme ça, comment est-ce qu'on peut jouer avec la confiance et pas le couteau sous la gorge?
Ben c'est ça, c'est moi aujourd'hui, c'est la question que je me pose. C'est qu'ils se sont séparés de beaucoup de joueurs d'une façon, on va dire, un petit peu limite. Et c'était un message qui, pour moi, n'était pas forcément bon pour les plus jeunes ou pour ceux qui restaient. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils sont repartis sur autre chose. Ils sont repartis sur une situation avec que des jeunes. Donc peut-être c'est plus simple à manier, j'ai envie de dire. Parce qu'ils connaissent pas encore tout ça, ils connaissent pas encore tous les rouages du football. Donc, ça a l'air de bien fonctionner et c'est le plus important. Parce que le plus important, c'est que Bordeaux retrouve sa place et nous, on va dire, les plus anciens, on en a vu d'autres et on n'est pas
Ouais.
choqué par tout ça, mais j'espère pour eux que ça va vraiment continuer et que on va retrouver une sérénité qu'il doit y avoir dans un club pour performer.
Jimmy, merci.
Merci à toi.
Merci à tous de nous avoir suivis pour un nouvel épisode de Call Interview. On se retrouve très vite dès la semaine prochaine avec un nouvel invité, des nouvelles anecdotes, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.